With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et vous écoutez l'épisode 16 de la deuxième saison, dans lequel j'ai le plaisir d'échanger avec Alexia Duchesne, demi-finaliste de la saison 10 de Top Chef.
Je me suis sentie chef pour la première fois, je veux dire chez Fulgence, mais parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on me laisse les rênes à 100%. Mais après, moi, je pense que je me suis toujours un peu sentie chef parce que... Même quand j'ai commencé la cuisine, moi j'ai toujours été dans ce truc un peu genre... J'aimais bien jouer des rôles, quoi. Et donc j'ai toujours porté la toque, même quand je cuisinais à la maison, genre en mode c'est moi le chef. Parce que voilà, j'ai toujours senti en moi que j'étais peut-être plus chef que cuisinière, parce que j'ai toujours eu du mal à être sous les ordres, quoi.
Pourquoi Alexia ? Parce que c'était ma candidate préférée du dernier Top Chef. Sa cuisine m'a bluffé, mais aussi sa façon de tracer sa route et d'assumer ses choix qui font du bien. J'ai adoré échanger avec elle dans cet épisode, parler de Top Chef, beaucoup, de cuisine sensible et d'asperges carbonara. Avant d'écouter, petit rappel, comme les chefs, j'aime bien les étoiles, donc n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes en lui en décernant un maximum. Bonne écoute. Bonjour Alexia.
Bonjour Julie.
J'ai eu un coup de cœur en dégustant ta cuisine pendant l'épisode de la guerre des restaurants. On était plusieurs membres du jury à être bluffés par ton plat. C'était un vrai enchantement. C'est comment d'être de l'autre côté ? Parce que moi, je l'ai vécu côté dégustation et c'était sympa et assez... pas du tout... Enfin, pas stressant vraiment pour nous, mais de ton côté, c'était comment ?
Je pense que la guerre d'un resto, c'était assez stressant dans le sens où c'est pas vraiment la vraie vie de monter un resto en deux jours et de faire les courses, la décoration et tout, c'est pas le quotidien d'un chef, quoi. Donc moi, c'est vrai que je me suis occupée de la déco du resto, puis ensuite du service. Donc déjà, j'étais pas dans la même ligne pendant les deux jours, quoi, donc c'était assez compliqué. Après, on a pris beaucoup de plaisir à cuisiner et avec Guillaume, on s'est quand même relativement bien entendu sur... la conception notamment du plat que t'as goûté. Et donc c'était quand même assez agréable vers la fin de voir tout le monde assez heureux du repas, quoi.
Bon, t'as été, maintenant on le sait, t'as été éliminée aux portes de la finale. Ça a été assez difficile. Tu t'es prise au jeu du concours.
Bah, c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé Top Chef, hein, je me voyais même pas aller dans... Enfin, je me disais, vu le niveau des autres, que j'allais pas faire long feu, quoi. Et je pense qu'on se prend au jeu à partir d'un certain moment. Moi, le gros déclic, ça a été quand je me suis coupée et que je suis revenue et que j'ai eu des compliments d'Annie Caleno. Je pense que ça m'a vraiment reboostée et je me suis dit qu'il y avait peut-être une possibilité pour moi d'aller jusqu'au bout. Mais c'est clair que quand on a des compliments de Ducasse, Romain Médère et Aleno, on espère bien sûr aller jusqu'au bout et on y croit. Et après, partir si près du but, c'est toujours difficile. Après, c'était il y a 6 mois, je suis passée à autre chose, mais bien sûr, sur le coup, c'était assez difficile.
C'est pour moi la grande gagnante, enfin, pour moi et pour plusieurs personnes, parce que c'est vrai que c'était celle dont la cuisine m'a le plus emballée à la télé, enfin, à la télé un peu en vrai, j'ai eu cette chance. Comment t'es arrivée dans le concours ?
Bah, je suis arrivée dans le concours un peu par hasard, parce que ça fait 3 ans qu'on me contacte. Après, il y a 3 ans, j'étais quand même, j'avais 20 ans, je ne me sentais pas du tout prête à faire ce concours-là.
On te contacte parce que t'étais dans... Ils font une espèce de chasse...
Ils ont une sorte de... ils ont plusieurs chasseurs de tête un peu sur Facebook et les réseaux pour...
Repérer les jeunes.
Voilà. Ouais. Donc je pense qu'ils m'ont repéré comme ça. Et puis voilà, j'avais refusé 2 années de suite. Et là, je me suis dit, bon... en fait, j'en ai parlé à Giovanni Passerini, donc mon patron et mon chef donc à l'époque. Et Giovanni, tout de suite, m'a dit, mais fais-le, c'est une super visibilité. Et puis comme ça, tu peux défendre aussi une cuisine... qu'on voit jamais à la télé, en fait. C'est vrai que la cuisine, on touche à peine aux produits, on essaye de le laisser s'exprimer. C'est vrai que dans Top Chef, c'est apparemment coutume de voir ça. Donc, je me suis dit que ça pourrait être un beau challenge de défendre une cuisine jeune, simple, parfois peut-être trop simple, mais aussi affirmée. Donc, c'est comme ça que je suis un peu tombée dedans.
Tu t'es décidée à participer. Comment ça s'est passé, le casting, tout ça? Tu as passé des épreuves quand même,
hein? Le casting, en fait, du moment où j'ai postulé jusqu'au moment où j'ai eu une vraie réponse finale, ça a pris genre 3 mois et demi. Donc, c'était quand même assez long. En fait, on dépose une candidature. Enfin, même si on est contacté, on doit quand même remplir un dossier. On remplit un dossier avec des questions assez lambda sur la cuisine.
Nos CV,
des photos de cuisine, des photos de plats. Et c'est vrai que moi, je prends jamais mes plats en photo parce que j'en avais jamais fait des plats vraiment à moi. Enfin, voilà, je vais pas prendre des photos de burgers que je fais chez moi le week-end. Donc, je me rappelle, j'ai commencé en plein service du midi. Giovanni m'a dit, vas-y, tu prends ton temps, tu te mets ailleurs et tu vas faire des plats. Et j'ai passé ma journée à faire des plats qui n'avaient ni queue ni tête, mais qui visuellement étaient super sympas, juste pour passer le casting, quoi. Donc, je veux dire, il y avait que des trucs crus, des trucs pas cuits et tout, mais bon, c'est passé, donc c'est le principal. Et après, on a des interviews dans les studios d'M6 pour voir si on passe bien, si on s'exprime bien, etc. Et puis ensuite, on a deux tests culinaires, deux tests de 45 minutes, un plat qui est un peu un plat signature où on fait ce qu'on veut, on est assez libre.
Et un plat. Tout seul ou vous êtes tous les candidats, enfin tous les.
On est sept par cuisine et on cuisine avec plein de gens. Moi, j'étais dans la même session que Damien, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et après, on a un autre test façon panier secret. 45 minutes pour créer un plat avec un panier secret. Donc, le thème, c'était l'œuf. Donc, c'est vrai que tout le monde avait fait genre des œufs, basse température, parfait, machin et tout. Et j'étais la seule qui avait fait un faux plat. Parce que moi, j'étais vachement inspirée de ce que je mangeais tout le temps chez Moco. Enfin, voilà. J'adore l'œuf très simple, quoi. Et c'est vrai que ça avait fait parler parce qu'ils étaient en mode tu fais Top Chef et tu fais un faux plat. Et au final, c'est passé. Donc, voilà.
Donc, t'as été qualifiée sur le faux plat.
J'ai été qualifiée sur le faux plat. sur le faux plat. Et sur le plat d'avant, c'était un meilleur Ouest de France qui goûtait. Et puis, voilà, ils ont trouvé ça cool.
Et c'est un mélange de cuisine, mais de personnalité aussi, j'imagine. Enfin, d'après ce que tu dis, s'ils font passer aussi des interviews, c'est pas...
Enfin, moi, dans la session, en tout cas, j'ai vu des super cuisiniers passer qui n'étaient pas avec moi dans Top Chef. J'ai vu des cuisiniers qui avaient bossé genre 6 ans chez Piège. Enfin, des mecs qui étaient bien supérieurs à mon niveau. Mais je pense que Top Chef, c'est un tout. Bien sûr, la cuisine, c'est hyper important, mais avoir quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, qui, dès qu'il est stressé, se renferme, bien sûr, ça passe pas bien à la caméra. Et c'est quand même le but de faire une émission qui divertisse, quoi.
Et ce rapport à la médiatisation, est-ce que ça a été difficile à gérer?
Je pense que pour moi, en tout cas, comment je le vis à Paris et quand je suis en déplacement vite fait, c'est que les gens sont quand même assez bienveillants. Et puis, il y en a plein qui me reconnaissent, mais parfois, ils viennent pas me voir. Et s'ils viennent me voir, en général, c'est pour me dire bravo, juste un petit mot assez court, parfois une photo, mais franchement, je trouve que les gens sont relativement sympas et je suis reconnaissante aussi d'avoir un peu le projecteur sur moi à ce moment-là de ma vie, parce que ça fait beaucoup changer les choses, donc ça me dérange pas.
T'as eu des bons retours, t'as cuisiné pendant 2 semaines à Fulgurance en face.
Ouais, voilà,
ça a permis aux gens de goûter ta cuisine aussi.
J'ai cuisiné chez Fulgurance, c'est vrai que je m'attendais pas à un tel engouement parce que... Enfin, il y a quand même eu des chefs qui sont passés avant chez Fulgurance, le restaurant, qui ont quand même déjà un nom, quoi. Et moi, enfin, à part Top Chef, j'ai fait 2-3 maisons sympas, mais enfin, je suis un peu personne pour l'instant. Et voir autant de monde venir et genre, enfin, content, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, quoi.
Dans l'émission, au début, t'étais dans la brigade d'Enenda Rose. Après, t'as changé et t'es allé dans la brigade de Jean-François Piège. J'ai lu que t'avais dit que ça t'avait poussé un peu dans tes retranchements. Est-ce que c'était bénéfique et important, finalement, ce changement, le fait d'être avec un chef peut-être plus dur ou, enfin...
Bah, c'est clair que Enenda Rose et Jean-François Piège, c'est deux écoles totalement différentes et deux façons de faire et même de vision de la cuisine, je pense. Mais j'étais très contente de commencer avec Enenda Rose parce que je pense que c'était important pour moi de me sentir rassurée avec quelqu'un qui me pousse pas non plus trop mais qui me met en confiance. Et puis ensuite, passer avec Jean-François Piège, c'était super parce que j'ai l'impression qu'il avait une vision de la cuisine où on était vraiment dans la réflexion, quoi. Pourquoi on fait ça, en fait? C'est pas juste on cuit une viande, on fait une garniture, c'est limite un petit peu intellectuel. Après, moi, c'est pas la cuisine qui me plaît à manger au quotidien, mais je pense que c'est une cuisine qui est importante. Si on a un menu dégustation et qu'on veut que les gens se souviennent d'un plat en particulier. Donc pour moi, c'était hyper important de changer de brigade. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à me qualifier assez facilement sur les demi-finales.
Et dans la vie d'un cuisinier, dans la formation d'un cuisinier, c'est important de, aussi d'alterner différentes personnalités, enfin de pas toujours être dans un confort finalement de cuisine. Ou enfin, est-ce que ça t'a fait te poser des questions là-dessus?
De manière, moi, je pense que j'ai jamais été une cuisinière très stable, on va dire. Enfin, moi, j'ai toujours besoin de bouger et je pense qu'on est beaucoup de ma génération à le faire. Parfois, c'est positif, parfois, c'est négatif. Je pense que on peut voir ça des deux côtés. Après, moi, j'ai toujours apprécié et de bouger, de voir autre chose. Ça me fait grandir, ça me fait, je sais pas, ça me pose les bonnes questions. Et puis, j'ai fait beaucoup de rencontres grâce à ça. Après, c'est vrai que j'ai des amis qui sont restés plus longtemps dans la même boîte, qui ont réussi à évoluer, qui ont pris plus de grades rapidement. Après, c'est un choix et c'est le choix que j'ai décidé de prendre.
Top Chef, c'est finalement un formidable vecteur de communication et de facilitateur pour monter son restaurant, non?
Je pense que Top Chef, si on arrive à bien se débrouiller dedans et qu'on véhicule les messages qu'on a vraiment envie de porter, je pense qu'à un moment donné, on peut toucher les gens qu'on veut toucher et puis ça peut amener à beaucoup débouger. Après, tout dépend de ce qu'on fait dedans, en général.
Et toi, en tout cas, c'est Top Chef qui t'a fait te dire que tu voulais te lancer.
En fait, moi, je comptais pas vraiment me lancer après Top Chef. J'avais pour objectif de partir à New York, bosser dans un étoilé, voilà, en tant que chef de partie ou sous-chef. Mais en tout cas, pas du tout de me lancer maintenant. Et c'est vrai qu'on est venu vers moi à plusieurs reprises, différentes personnes, dont une personne, donc Alex, qui va ouvrir la Dacha avec moi en tant que chef. Il est venu trois fois, j'ai refusé et je lui ai dit, écoute, je pense pas que ce soit le bon moment. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est vrai que ça peut être cool aussi que les gens goûtent ce que je fais dans Top Chef et d'avoir un peu une ligne directrice de après mon parcours, quoi. Et c'est vrai que beaucoup de gens critiquent, c'est vrai que je suis très jeune, j'ai que 23 ans et je le sais. Après, je pense que je suis quelqu'un qui essaie pas de tromper, en fait. Je pense que dans la cuisine que je vais faire là-bas, je vais pas essayer de montrer que j'ai plus de technique que ce que j'ai vraiment. Donc, je ferai une cuisine assez simple et qui me ressemble. Et voilà.
Tu te sens prête, donc?
Je me sens prête parce que, je sais pas, Sérénie, Giovanni m'a toujours laissé beaucoup de place, en tout cas au management et à la gestion et à l'organisation des cuisines. Donc, en tout cas, sur ce point-là, je me sens assez prête. Après, la question, et je pense que c'est ce qui me fait le plus stresser, c'est est-ce que les gens vont apprécier ma cuisine? Parce que c'est vrai que c'est facile de cuisiner chez Fulgurance et de faire des petits plats un peu tapas, mais là, on va vouloir quand même faire une vraie cuisine plus sérieuse. Et c'est sûr que c'est un gros stress, mais bon, on va essayer de gérer ça.
En même temps, chez Fulgurance, t'avais une plaque, un mini-four et un commis.
Non, c'est clair que chez Fulgurance, c'était...
Et du bordel partout.
Non, c'est vrai que chez Fulgurance, c'était pas la cuisine idéale, mais je pense que quand les gens viennent dans un bar à vin, déjà, ils ont moins d'attentes.
Tu crois?
Non, enfin pas moins d'attente au niveau du goût, mais je pense que niveau dressage, précision, machin, voilà, ils sont plus...
Parce que je pense que c'est une des premières fois où le grand public pouvait goûter sa cuisine aussi, et il y avait des attentes aussi là-dessus.
J'ai eu 2-3 échos, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui avaient trop d'attentes par rapport à ce bar avant, en fait.
Ah bon?
Il y a des gens qui regardaient Top Chef et qui s'attendaient vraiment à un truc en mode Top Chef, quoi. Mais sauf c'est pas ça c'est pas ça ma cuisine. Enfin, à part quelques plats qui me ressemblaient vraiment à 100%. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été plus dans le partage et dans ce concept d'essayer de partager. Et je pense que quelques personnes de Top Chef comprenaient pas trop cette approche plus simpliste de la cuisine, quoi.
Qu'est-ce que tu vas faire chez Dacha, alors? Qu'est-ce que ça va être?
Alors, le resto Dacha... ça va être un lieu un peu spécial dans le sens où on a un restaurant, donc 65 places assises, donc ce qui est assez gros.
Rue de Saint-Onge, c'est ça? Rue
des Gravilliers.
Ah oui, rue des Gravilliers.
Voilà, donc en plein cœur d'art et métier. On va avoir un bar à cocktail en sous-sol, avec une team de mixologistes et tout ça. Et on aura on a une partie club, entre guillemets, qui fera 2 heures. En fait, c'était juste pour animer un petit peu. Et l'idée, le propriétaire a appelé ça Dacha, parce que c'est un peu l'idée d'avoir une maison, en fait, de reproduire cet effet où on ne sort pas, en fait. On va au resto, on peut aller boire un verre, aller au club après, ou vice-versa, il n'y a pas de place au resto, on va d'abord boire un verre, puis voilà. Et après, en termes de cuisine, donc nous, on n'ouvre que le soir, on va faire assiette à partager. Moi, c'est un peu la cuisine que j'ai découvert chez Frenchy et qui m'a beaucoup plu quand j'ai travaillé à Londres. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être sur un univers. Hier, j'ai fait la carte avec mon sous-chef. On est vraiment parti sur un hiver très végétal et plus marin. Il y a très très peu de viande. Après, c'est pas que je veux pas en mettre parce que je suis pas végétarienne ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je me suis rendu compte que c'est la cuisine qui me parlait un petit peu moins. Et donc voilà, après, on essaie toujours de travailler des produits de saison. Moi, je suis pas du tout en circuit hyper court comme fait Florent Adan ou autre, mais en tout cas, des produits qui prennent pas l'avion ou des choses comme ça, quoi.
Ça va ouvrir quand ?
Ça va ouvrir normalement fin août, début septembre. Et puis, nous, on sera en cuisine un mois avant pour faire des vinaigres, la fermentation, des essais.
Voilà. Ça va arriver vite.
Ouais, c'est clair.
Bon, comment t'es arrivée dans la cuisine ?
Je suis arrivée dans la cuisine, je viens pas par hasard, parce que pas trop non plus, mais un peu quand même, parce que j'ai suivi un parcours très classique. J'étais au collège, après je suis partie en pension, une pension catholique près de Tours.
T'étais une mauvaise élève ?
J'étais pas une mauvaise élève, mais j'étais pas... J'avais toujours des très mauvaises fréquentations à cette époque-là. En fait. Et en fait, la pension, ça me saoulait en seconde. Et donc, toutes mes copines commençaient à partir, parce que c'était un peu cool de partir de la pension et tout, et de revenir à Paris. Donc j'ai quitté la pension, j'ai dit à mes parents, je rentre. Sauf qu'aucun lycée en milieu de seconde, en tout cas aucun bon lycée a de la place. Et donc pendant un mois, j'étais déscolarisée. Après, je suis dans un lycée hors contrat, un calvaire. Et puis après, en fait, il y avait un lycée hôtelier près de chez moi, genre rue de Courcelles. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas tester. J'ai toujours aimé la cuisine, j'en ai déjà parlé à mes parents, mais c'est vrai que mes parents étaient un peu contre. Et on s'est dit, bon, on se met en bac techno. Comme ça, au pire, si je veux faire autre chose, le bac techno, c'est assez large. Et en fait, il n'y avait plus de place en bac techno. Donc, ils me disent, tu commences en bac pro. Et si jamais tu es première de la classe, tu partiras en bac techno l'année d'après. Donc, j'arrive en cours de cuisine déjà avec des gens qui n'en ont rien à faire dans la cuisine. Donc, c'était assez spécial.
Et toi, tu découvrais aussi.
Moi, je découvrais. Donc, moi, j'y connaissais rien. J'étais entourée de gens qui n'y connaissaient rien non plus, mais qui n'avaient pas envie d'être là, en fait. Le bac pro, c'est vraiment... Je pense que ça, c'est toujours une voie un peu de
garage.
De garage, ouais. Et c'est triste, c'est-à-dire. Je pense que sur ma classe de bac pro, on est peut-être 5 à faire la cuisine sur 30, quoi. Alors, je veux dire, c'est pas normal. Et donc, en fait, j'ai fini première de ma classe, en seconde, et on m'a demandé si je voulais repartir en bac techno, et au final, j'ai refusé, et je suis restée en bac pro, parce que, en fait, je me voyais pas faire autre chose. Déjà qu'on avait peu de temps en cuisine, je crois qu'on a que 15 heures par semaine, c'est pas énorme. En bac techno, on a que 6 heures, ou 8 heures toutes les 2 semaines, un truc comme ça.
Oui, c'était assez peu.
Donc c'est assez peu et je me voyais pas en fait arrêter ce rythme-là parce que je commençais vraiment à découvrir des choses. Et donc j'ai refusé, je suis restée en bac pro pendant 3 ans. Puis après j'ai fait un CAP pâtisserie à Ferrandi et j'ai enchaîné en fait sur un BTS qui m'a tellement saoulée. Au bout d'un mois, j'étais en alternance chez Taïwan, j'étais à Ferrandi. J'avais un peu genre le meilleur CV entre guillemets de ma classe. Et en fait, ça ne me correspondait pas du tout. C'était juste... être assis sur une chaise toute la journée en cours, c'était juste inimaginable, quoi.
Tu voulais cuisiner, être dans la cuisine.
Ouais, je voulais absolument cuisiner. En fait, j'ai vu Grégory Marchand poster quelque chose sur Facebook comme quoi il cherchait quelqu'un à Londres. J'ai envoyé un message, il m'a dit « Tu viens à Londres demain ». J'ai pris un bus de nuit, je suis partie à Londres. Et
t'as tout plaqué. Et t'as tout plaqué Ferrandi, voilà. Taïwan...
Voilà, j'ai tout plaqué.
Et la cuisine, t'aimais ça comment ? Tu cuisinais quand t'étais petite ?
Quand j'étais au collège, je faisais jamais mes devoirs. En fait, je faisais jamais mes devoirs et mes parents me donnaient toujours l'argent pour faire les courses. Donc j'achetais genre des filets de bœuf, je faisais genre 15 000 garnitures, des salades, des entrées, des trucs, des desserts.
Et t'aimais ça quand même ?
J'adorais ça en fait et c'était aussi une façon pour moi de dire voilà, j'ai pas fait mes devoirs mais j'ai cuisiné donc. Donc voilà quoi.
Oui, donc t'aimais ça déjà et à quel moment tu t'es dit que c'était vraiment ton truc ?
Je pense que ouais, j'ai toujours aimé ça. Après, même quand j'étais en bac pro cuisine, il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait peut-être que je ferais autre chose. Toujours dans le milieu de la cuisine, mais pas en tant que chef dans la vie, quoi. Donc, je pense que ça a pris beaucoup de temps et c'est vraiment, je pense, à Londres que j'ai eu le déclic du style, voilà, c'est ça et c'est rien d'autre. C'est vrai que j'ai toujours admiré les chefs, je sais pas, comme Passard, qui disent, moi j'ai toujours su et je me suis jamais demandé si je voulais faire autre chose. Moi, je pense que j'ai pas eu cette chance-là, dans le sens où pendant des années, je me suis un peu battue avec moi-même en me disant est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que tu fais une connerie? Est-ce que tu veux pas faire autre chose? Parce que on n'est pas beaucoup de femmes dans ce métier et c'est vrai que c'est un métier qui est complètement, enfin, qui est hyper dur, quoi.
Ouais, ça manque de modèles féminins aussi.
Bah, c'est clair que les modèles féminins qu'on a, enfin, c'est un peu triste, mais Anne Sweepick, elle est fille et petite fille de chef. Enfin, c'est pas du tout le même univers que moi. J'arrive pas à m'identifier à elle. Hélène Darroze, c'est pareil. Donc, je pense que c'est assez compliqué de s'identifier à des femmes qui sont supposées nous représenter et en fait qui correspondent pas à l'actualité des femmes de chef aujourd'hui, quoi.
Et c'était qui, je veux dire, les premiers chefs que tu admirais quand tu étais à l'école?
Je pense que, enfin, moi, j'ai toujours admiré les chefs, mais plus qu'un chef, j'ai toujours admiré les chefs entrepreneurs. Donc, c'est vrai que mes grandes stars, quand j'étais jeune, c'était Alain Ducasse et Jean Georges à New York. Parce que je trouvais ça fascinant, la façon dont ils drivaient des équipes de 800 personnes. C'est vrai que ce sont pas les chefs niveau cuisine maintenant qui me font le plus rêver. Mais pour moi, ce sont des entrepreneurs de dingue, quoi. Et je pense que ça a toujours été quelque chose qui m'attirait, quoi, l'entrepreneuriat.
Et dans tes différentes expériences, tu parlais donc Taïwan, Frenchy, Covent Garden. Tu as travaillé au Claridge aussi à Londres.
Ouais, j'ai travaillé chez Ferrat dans un restaurant étoilé avec Simon Rogan. Et après, je suis partie à Copenhague. J'ai travaillé avec l'ancien second de Noma, Thorsten, chez Studio. J'ai travaillé un petit peu chez AOC, mais là, j'ai pas trop aimé. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec Laura Vidal et Harry Cummings au Paris Pop, à Cannes, puis à Arles, et puis ensuite Passirigny.
Et quelle expérience t'a le plus marqué?
Je pense que l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est Taïwan, parce que c'était vraiment mes débuts et que j'ai vu tout ce que je ne voulais jamais refaire. Donc, donc je pense que celle qui m'a le plus marqué dans le sens où voilà, ça a été des mois hyper durs et...
Ça façonne en même temps.
Voilà, enfin, franchement,
ça façonne et ça permet de savoir ce que tu veux pas, comme tu dis, c'est important aussi.
C'est clair. Enfin, je veux dire, moi, parfois, je rentrais le soir, je pleurais parce que j'étais en train de me dire, mais j'aime même pas ça. Est-ce que j'aime vraiment la cuisine? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Parce que j'avais pas du tout d'autres modèles à part Taïwan à ce moment-là. Et après, une autre expérience qui m'a vraiment marqué, c'est, je pense que c'est Frenchy, parce que c'était une ouverture. Moi, c'était ma première ouverture. J'avais 19 ans. C'était hyper dur. Je me rappelle, pareil, parfois je pleurais en rentrant chez moi, genre à vélo, parce qu'on faisait des journées de 15 heures. Parfois, j'y arrivais pas. J'étais au poste pâtisserie, on m'a mis là toute seule à 19 ans. Certes, j'ai un salaire pâtisserie, mais là, on faisait des desserts pour 150 couverts, quoi. Et en plus, Greg est assez exigeant, donc c'est vrai que c'était difficile. Mais en fait, je pense que c'est l'expérience qui m'a le plus forgée, parce que Greg a été un peu dur avec moi vers la fin et ça m'a énormément aidée. Je pense que sans Frenchy, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui.
C'est important aussi, c'est important, comme on disait tout à l'heure aussi, d'avoir des chefs qui te poussent un peu.
Je pense que c'est important d'avoir des chefs exigeants et qui nous poussent, parce que on peut très vite rentrer dans un confort, une routine. Moi, je pense que vers la fin, chez Passirigny, j'étais trop rentrée dans une routine. Et je pense que Joe l'a ressenti, je l'ai ressenti. Et à un moment donné, il faut passer à autre chose quand on rentre dans ça. Ouais.
Mais bon, c'est difficile. Enfin, c'est un difficile arbitrage. Tu disais, tu pleures rentrant.
Ouais.
Et...
ouais, non, mais c'est clair. En fait, je pense que aussi, ce qui était très difficile pour moi et pourquoi genre, je pleurais, je me sentais triste, c'était aussi que toutes mes copines de pension... voilà, elles faisaient la fête, elles étaient jeunes étudiantes, machin, et moi j'étais tout le temps au travail, quoi. Moi j'avais pas le temps de sortir le week-end, j'étais à Londres toute seule, j'habitais dans un petit appartement toute seule, enfin, je pense que c'était très difficile pour moi les débuts. Après, maintenant je suis épanouie et je pleure pas rentrant le soir. Hein, donc...
Non, mais c'est dur d'entendre ces formations qui sont difficiles, en fait, aussi dans la cuisine, enfin, ce métier qui est hyper prenant et difficile physiquement, mentalement aussi.
Non, c'est clair que c'est un métier qui n'est pas évident et que... Enfin, je veux dire, quand on voit qu'il y a quand même beaucoup de chefs qui ne conseillent même pas ça à leurs enfants, quoi. Alors que moi, je le conseillerais, je pense, parce que je trouve que c'est un métier qui m'a tellement apporté et qui rassemble. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau, quoi.
Et c'est dur d'être une femme dans ce métier?
Une femme en cuisine, c'est dur. Après, moi, je pense que j'ai eu quelques histoires un peu sexistes, etc. Après, je pense que j'ai pas eu trop de poisse dans le sens où j'ai vraiment pas vécu de choses horribles comme d'autres l'ont vécu. Mais après, oui, c'est sûr que c'est dur. Enfin, je veux dire, je t'avais vent. Imaginer une femme à la section de la viande, c'est inimaginable, quoi. Je
veux dire, pourquoi?
Parce que les femmes savent pas, enfin, peuvent pas tenir de casserole, les femmes peuvent pas faire de jus.
C'est ce qu'ils pensent.
C'est hyper sexiste. Et puis en plus, ce qui est.
Genre, si t'es une femme, t'accéderas jamais au poste important là-bas.
Enfin, moi, j'ai vu. Par définition. Moi, j'ai vu qu'une seule femme, juste avant, faire le poisson, et elle était restée 4 ans, un truc comme ça. Enfin, je veux dire, si on reste pas minimum 2-3 ans, on peut pas faire autre chose que le garde-manger, quoi. Mais bon, après.
C'est tellement d'un autre temps.
Ouais, non, voilà, c'est tellement d'un autre temps. Et je pense que, de manière. Ils sont tous en train de se casser la gueule les uns après les autres. Plus personne veut bosser dans ce genre de restaurant. Ouais.
Ouais, t'es arrivée chez Passerini. T'as commencé seconde là-bas?
Alors, je suis arrivée chez Passerini en tant que chef de partie. Parce que Harry, donc, avec qui j'ai travaillé à Arles, c'est lui qui m'a un peu conseillé. Je lui ai demandé des conseils sur quelle était ma prochaine. Direction, quoi. Et puis il m'a conseillé Septime, Passerini et Le Grand Main.
C'est très corporatiste comme métier, la restauration. Ça se passait déjà comme ça avant et ça reste finalement. Ouais, ouais. Les chefs aident
leurs potes, leur réseau, le truc, quoi. Et donc c'est vrai que Septime, je crois que Harry avait pas eu, il avait appelé pour moi, il n'avait pas eu de réponse et puis. C'est une cuisine qui me parle énormément, mais je sais pas si j'étais prête à ce moment-là, après avoir vécu quelques mois un peu, pas à la cool, mais plus cool avec Harry, si j'étais prête à retourner dans un truc un peu plus militaire. Et Le Grand Bain, je connaissais pas du tout, mais je sais pas pourquoi, je suis direct allée chez Passerini, parce que j'ai toujours adoré faire les pâtes, et j'ai commencé à en faire avec Harry, et je voulais vraiment m'approfondir sur ce truc. Et Giovanni m'a direct dit, bah ok, c'est bon, tu commences. Il a même pas regardé mon CV, rien du tout. On y va, quoi. et en fait, j'ai commencé 2 mois après, un peu suivi parce qu'il y a quelqu'un qui partait. On avait fait un événement avant pour Eurostar avec des influenceurs ou je sais pas quoi. Et en fait, on a direct connecté, quoi. On parle la même langue dans le sens où, voilà, Giovanni me parle d'un produit, on va tout de suite à un plat assez facilement. On est dans le même environnement et dans le même style de cuisine. Donc c'était assez cool de travailler à ses côtés pendant un an.
Une cuisine de la sensibilité
Ouais, Giovanni, c'est une cuisine très sensible. Moi, j'ai commencé en tant que chef de partie. Après, au bout de 4 mois, je suis devenue seconde parce que le second partait. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une cuisine qui parle pas tous les jours à tout le monde. Vu que c'est une cuisine très sensible, bah, parfois Giovanni, il est de moins bonne humeur. Et donc c'est un peu moins bien. Parfois, il est super content, hyper inspiré. Et donc là, c'est genre le meilleur repas d'une vie. Ouais. Quoi. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que, bien sûr, dans la cuisine, il faut être régulier. Et je pense que les étoilés l'ont très bien montré. Il faut avoir de l'exigence tous les jours. Mais je pense qu'il y a aussi des cuisiniers où c'est assez limite rafraîchissant d'aller là-bas parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et même si moi, je vais dans un resto où c'est moins bon. Par exemple, je vais chez Mokonat. C'est moins bon une fois. Bah, je vais quand même me dire c'était un super repas parce que je sais que voilà, je connais leur vie, je sais que voilà.
Ils ont mis leur cœur.
Ils ont mis leur cœur. Après, voilà, parfois ils sont dépassés, il y a trop de monde, il y a un problème avec le four, j'en sais rien. Nous, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, moi j'apprécie aller dans des restaurants qui sont parfois un peu irréguliers parce que je pense qu'il faut laisser la chance aux gens de prendre leur temps et de faire les choses bien, quoi.
Toi aussi, t'es comme ça, t'es une cuisinière sensible.
Je pense que je suis une cuisinière sensible, oui. Après, je pense que chez Frenchy, j'ai appris aussi ce côté hyper.
Moins sensible.
Non, c'est pas que c'est moins sensible, mais c'est que Greg a ce côté très anglo-saxon et américain dans le sens où il est vachement dans la précision, tout est pesé. Chez Giovanni, il n'y a pas une recette, quoi. C'est-à-dire, chaque semaine, je dis, bon, on fait comment ça? Je sais pas, tu prends un peu de ça, tu prends un peu ça. Enfin, chez Greg, c'est inimaginable ce genre de choses. Donc, je pense que c'est bien d'avoir vu les deux parce que la cuisine sensible, c'est bien, mais c'est très difficile et très éprouvant au quotidien, dans le sens où si on n'a pas une équipe qui est sensible aussi, c'est extrêmement compliqué de driver, quoi. Et je pense qu'on s'en est rendu compte avec Giovanni, c'est que parfois, nous, on parle le même langage, mais les autres ne parlaient pas le même langage que nous et c'était juste très difficile à gérer.
Et toi, tu pèses ou tu pèses pas, alors?
Moi, je pèse et je pèse pas. Vraiment, j'ai un peu des deux, quoi. Mais c'est vrai que là, pour l'ouverture du resto, je suis en train de tout écrire en... En fait, j'écris toutes mes sauces et mes condiments de base. Et après, voilà, je vais pas dire il faut cuire 3 minutes une asperge parce qu'on sait pas la taille de l'asperge. Enfin, ça, c'est vraiment une question de toucher et de feeling. Après, je pense que c'est hyper important aussi de peser et que ce soit toujours régulier parce que à un moment donné, enfin, on sait pas qui cuisine derrière. Ça peut être un stagiaire, ça peut être un sous-chef, donc voilà.
Tu prends le meilleur des deux.
Voilà, faut prendre le meilleur des deux.
Justement, c'est cette cuisine sensible, moins technique, c'est ce que tu voulais faire passer dans Top Chef. C'est pour ça ce que tu disais, c'est pour ça que tu as fait l'émission. Et...
Bah, je voulais faire l'émission pour montrer voilà, une autre facette de la cuisine qu'on voit jamais à la télé. C'est vrai qu'on voit toujours les étoilés, les mecs hyper techniques. Et je trouve qu'on voyait pas assez une cuisine d'actualité, quoi, tout simplement. Une cuisine... moins technique, je dirais pas technique parce que je pense que il faut une base de technique pour pouvoir vraiment avoir une palette de possibilités plus large lorsqu'on fait un plat. Après, bien sûr, je voulais plus prôner la sensibilité et le respect du produit que la technique dans mes assiettes. Ouais.
Et tu disais que quand tu as fait le casting, t'as pris du temps finalement. C'est seulement à partir de là que t'as pris du temps pour faire des plats. Pendant l'émission aussi, tu as dû aller chercher ton style culinaire, c'était les premières fois.
Moi, Julien, qui parfois, enfin, j'avais jamais fait de plat, mais j'ai toujours eu beaucoup d'idées. Enfin, je note beaucoup d'inspiration, des choses qui me viennent. Après, moi, je les imagine, je les avais pas vraiment fait. Mais en tout cas, je pense que j'avais un style déjà que j'imaginais dans ma tête. Après, c'est vrai que dans Top Chef, c'était la première fois que je posais mes idées sur l'assiette et vraiment que j'assumais un style. Et je pense que ça s'est vu... au fil des semaines où au début j'étais plus voilà, j'essayais plus de plaire au grand nombre en gardant bien sûr ma touche et puis vers la fin voilà à un moment donné tu dis voilà c'est peut-être ma dernière assiette j'assume je fais ça comme ça peut-être que c'est pas le plat à niveau dressage qui plaît au plus grand nombre ou autre mais je pense que c'est important d'assumer.
Tu as trouvé voilà petit à petit ton style.
Je pense qu'un style, ça peut se chercher toute une vie, enfin, dans le sens où on n'arrête pas de l'améliorer. Moi, je l'ai bien vu chez Fulgurance, les plats que je faisais le premier soir étaient les mêmes au final que le dernier, mais totalement différents parce que tous les jours, je change un truc, quoi. J'améliore, enfin, on fait toujours des briefings, des débriefs avec mon sous-chef et on est toujours en train de réfléchir à comment on peut pousser un tout petit peu plus loin, comment on peut soit faciliter le service, soit améliorer la dégustation, le visuel... Je pense que le style, je le trouverai un jour. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai plus une ligne directrice de choses que j'aime faire, mais pas de style, non.
Tu as commencé à travailler sur la carte de Dacha ?
Là, on a finalisé hier toute la carte, enfin la première carte en tout cas.
C'était dur ?
C'était pas dur parce que j'ai un sous-chef avec qui on se comprend énormément. On a travaillé chez Passy-Régnier ensemble, donc c'est vrai que c'est assez agréable. Et donc voilà, on se comprend beaucoup et puis je pense qu'on prend aussi beaucoup d'éléments de nos voyages et de nos expériences dans la cuisine pour faire un menu. Moi, j'ai toujours voulu qu'on m'inclue en tant que sous-chef dans la création du menu. Et Giovanni le faisait quand même de temps en temps. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de le faire avec Joao et de partager ça ensemble.
On va passer à l'aller-retour. Ton âge, tu l'as déjà dit, mais...
23.
Ton signe astrologique.
Scorpion.
Ton plat signature.
J'ai pas la prétention de dire que j'ai un plat signature, mais on va dire le végétal, quoi.
Ton plat préféré ?
Pas de plat préféré, mais un plat que j'aime beaucoup, les quenelles de brochet sauce tentua.
Moi aussi. C'est dur d'en trouver des bonnes.
Ouais, grave. Ouais.
Ton ingrédient préféré ?
Je dirais l'oignon, parce que c'est très facile à travailler au fil des saisons.
Ton ingrédient détesté ?
C'est tout ce qui est... tout ce qui est genre gélane, tout ce qui est poudre pour les créer des textures quoi.
Ton ustensile fétiche.
Le mortier.
Ton dernier meilleur repas.
C'était à New York chez Estella.
Quel est le resto que t'aurais aimé ouvrir?
Estella à New York ou Clamato à Paris. Enfin en gros un resto où les chefs ont envie de venir quoi.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait.
Yannick Aleno, c'est un plat qui vaut 2 étoiles.
Et la pire critique ?
La pire critique, c'est fade. Ça manque de sel. Là, c'est vrai que c'est dur.
Dans Top Chef ?
Chez Fulgurance, il y a un client un peu bourré en fin de service qui m'a dit c'était cher et en plus c'était fade. Mais bon, c'est la vie, je pense qu'on peut pas toujours plaire à tout le monde et j'essaie de prendre du recul et voilà quoi.
Surtout un client un peu bourré ouais. En fin de soirée. Ça aide à prendre clair. Du recul.
Ouais.
Bon, qu'est-ce que représente la cuisine pour toi ?
La cuisine, ça représente le partage et ouais, le partage.
Qu'est-ce qui guide ton envie de cuisiner, de faire des assiettes, enfin de...
Bah moi, c'est le voyage. Enfin, voilà, je suis hyper curieuse. Moi, j'ai envie de partir ailleurs pour créer des assiettes que les gens n'ont pas partout, quoi.
Et tu crées facilement ?
Je crée facilement, enfin j'ai toujours, enfin toute la journée j'ai beaucoup d'idées que j'écris. Et après est-ce qu'elles sont toutes bonnes, j'en sais rien, mais en tout cas je crée des assiettes plutôt facilement.
Tu écris sur ton téléphone, sur internet.
J'écris sur mon téléphone, je prends des notes vocales, j'écris un peu partout. Ouais.
Et quel est le plat dont tu es le plus fier ?
Le plat dont je suis le plus fier. Quelque chose qui m'a vraiment rendu fière, c'est quand j'ai réussi à faire les pâtes chez Passerini et que Giovanni m'a dit que je les faisais aussi bien qu'un Italien, donc c'est quand même cool. Après, j'étais très fière de faire le plat avec Yannick Aleno dans Top Chef, en l'occurrence, parce que c'est un plat vraiment qui venait du cœur, je pense, pour ce coup-ci, et qui a vraiment touché Yannick Aleno, donc c'était cool.
Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es déjà interdit en cuisine ?
Je m'interdis les fruits exotiques, tout ce qui arrive par avion, tout ça c'est interdit.
Alors banane aussi.
Ouais,
ça.
Non, j'essaie de passer sur des choses. Là par exemple, pour la carte du restaurant, on fait des trucs assez végétales niveau dessert. Et je pense que voilà, les fruits exotiques, et même j'ai dit dans Top Chef, je trouve ça assez honteux, même si j'adore cette émission et que j'ai adoré la faire, qu'on fasse des épreuves sur l'avocat et des épreuves sur les fruits exotiques. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas normal parce que. C'est pas parce qu'on est 15 cuisiniers à le faire que ça va changer quoi que ce soit, mais en fait c'est toutes les personnes qui regardent Top Chef qui vont vouloir leur produire quoi.
Et oui, c'est juste, ce sera une belle visibilité pour justement cette cause. Enfin,
ouais, voilà.
Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois ?
Alors, je me suis senti chef pour la première fois, je veux dire chez Fulgurance, mais parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on me laisse les rênes à 100%. Mais après, moi je pense que je me suis toujours un peu senti chef parce que même quand j'ai commencé la cuisine, moi j'ai toujours été dans ce truc un peu genre où j'aimais bien jouer des rôles quoi. Et donc j'ai toujours porté la toque, même quand je cuisinais à la maison, genre en mode c'est moi le chef. Parce que voilà, j'ai toujours senti en moi que j'étais peut-être plus chef que cuisinière parce que j'ai toujours eu du mal à être sous les ordres quoi. C'est
Est-ce que c'est un truc, ouais, comme tu dis, c'est un truc assez inné finalement chez toi ?
Bah moi, par exemple, je me rends compte que je suis une bien meilleure chef que cuisinière, dans le sens où je drive vachement facilement les équipes. Là, avec mon sous-chef, hier, on a fait un point, genre on était en mode... Moi, je parlais et lui, il prenait toutes les notes. Enfin, je veux dire, lui, c'est un super exécutant et il le sait et il adore faire ça, en fait.
Vous avez trouvé votre place, voilà. Tous les deux.
Et lui a quand même 10 ans de plus que moi et pourtant, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi.
Et quel genre de chef es-tu ?
Je suis une chef assez posée, parfois en manque de confiance parce que c'est clair que je manque d'expérience, donc parfois ça peut se ressentir que je suis pas certaine d'un truc, quoi que ce soit, mais voilà, j'essaie de jamais hausser le ton, ça m'arrive mais c'est rare, mais voilà, je pense que je suis quelqu'un de posé et chef moderne quoi.
Et quand tu te présentes comment ? Aux gens qui te connaissent pas. Bon, maintenant beaucoup de gens te connaissent, mais
ouais, maintenant c'est Alexia Duchesne, même pas Alexia Duchesne, c'est Alexia Top Chef. Enfin, je pense que c'est compliqué parce qu'avant moi je me présentais en tant que sous-chef de Giovanni, mais
tu disais pas cuisinière ou
non, parce que j'ai toujours été, je voulais jamais dire cuisinière parce que les gens, vu mon âge et vu que je suis une femme, pensaient toujours que j'étais sûrement une commis ou un truc comme ça. Et moi, j'ai toujours voulu m'affirmer. Donc, c'est vrai que dès que je me présentais, je disais, je suis sous-chef de Passerini. Et donc, les gens, tout de suite, ça faisait effet et me prenaient au sérieux. Et je pense que ça a toujours été un peu une petite bataille pour moi d'être prise au sérieux.
Le fait d'être une femme ou pas du tout ?
D'être une femme, de faire 1m60, d'être blonde. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que c'est compliqué d'être prise au sérieux. Mais après, je pense que maintenant, ça commence à arriver. Mais voilà, c'est pas que j'étais prétentieuse de me présenter en tant que sous-chef, mais c'est juste que. Je pense que c'était un moyen pour moi de me rassurer et de me faire entendre.
Et l'ambition, t'as l'impression que c'est mal vu dans le...
J'ai l'impression que l'ambition, c'est assez mal vu dans le milieu, et encore plus en France, parce que... Enfin, par rapport en tout cas à l'Angleterre ou aux États-Unis où on voit des chefs qui ont 15 ans et qui cuisinent chez eux et qui facturent 300 euros par personne, c'est vrai qu'en France, c'est un peu inimaginable. Mais moi, j'ai toujours assumé ce côté très entrepreneur très business-minded, quoi. Mais après, je ne sais pas si je vais rester en France. Je pense qu'il y a moyen que j'aille aux États-Unis ou en Angleterre dans le futur. Et je pense que j'aurai peut-être plus ma place là-bas.
C'est vrai que il y a eu des critiques un peu sur ton côté ambitieux, c'est pas du tout. Enfin, je le dis de façon très neutre. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est reproché, alors qu'en fait,
Je pense qu'aussi, malheureusement, en Top Chef, même pas que dans Top Chef, dans la vie, une femme dit qu'elle aime ce qu'elle fait, ah ouais, t'es sûr de toi. Enfin, alors qu'un mec dit qu'il aime ce qu'il fait, bon, c'est normal, quoi. Et j'ai trouvé ça assez dingue parce que. Dans Top Chef, j'avais toujours eu beaucoup de compliments au début, et puis plus on avance, plus les gens en fait se disent en fait Alexia elle est sûre d'elle. Bah bien sûr que je fais des trucs que j'aime, quoi. Je vais pas commencer à faire des trucs qui me plaisent pas, et c'est normal que je le dise. Après que ça plaise ou non, moi d'un côté je m'en fous un peu, quoi. Mais c'est pas une question d'être hyper sûr de soi, prétentieux. C'est juste une question de je fais quelque chose que j'aime, j'essaie de le porter, de porter ma conviction jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, en tout cas, de recevoir des critiques comme ça, parce que j'ai que 23 ans et j'ai encore plein de choses à apprendre, et je le sais.
Oui, puis avoir un peu d'ambition, c'est quand même.
Oui, avoir de l'ambition comme.
Sympa, je veux dire, c'est quand même. Finalement, heureusement, il faut en avoir un petit peu.
C'est clair que si on veut réussir dans ce milieu, je pense qu'il faut avoir un minimum d'ambition et de niaque, et je comprends pas pourquoi c'est si peu toléré, quoi.
Est-ce que c'est dur d'être jugé à chaque assiette?
Je pense que c'est très dur. Pour moi, ça a été très dur, en tout cas, Top Chef, parce que tous les jours, on a des chefs qui dégustent. Mais je pense que Top Chef, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est exactement comme dans la vraie vie d'un resto, c'est que on est jugé à chaque assiette, quoi. Qu'importe que ce soit un chef 3 étoiles ou quelqu'un qui vient de la rue d'à côté, c'est exactement pareil. Il faut toujours se mettre en question, il faut toujours, même si les critiques touchent, il faut aussi prendre du recul et réfléchir à est-ce que c'est la cuisine que j'ai voulu faire. Et si ça l'est, on change rien, quoi.
Est-ce qu'il y a un sujet à pas aborder en restauration?
Je pense que le sujet à pas aborder en restauration, c'est les violences, quoi. Enfin, je pense que personne ne va en parler. Et je pense que même si on a parlé un petit peu il y a quelques années, je pense que on n'en parle pas vraiment comme il faudrait.
C'est dur d'en parler.
Non, mais c'est clair.
T'as déjà subi des violences?
Moi, j'ai pas subi d'extrême violence. Je veux dire, on m'a déjà collé contre le mur, etc. Enfin, j'avais 17 ans, quoi, 16 ans. Après, moi, je me suis jamais fait brûler et autres, mais je sais que ça arrive et je sais que pour beaucoup de gens, il y a eu. Enfin, je connais des gens qui ont vécu de terribles choses en cuisine. Moi, j'ai jamais eu honte d'en parler, dans le sens où je suis hors de ce milieu hyper étoilé, donc je m'en fous un peu de des noms et des machins, quoi. Mais et je sais que pour beaucoup de gens, c'est difficile parce qu'ils sont encore dans ce cercle, quoi.
C'est surtout dans le milieu de la restauration étoilée?
Je pense que c'est pas du tout que dans la restauration étoilée. Je pense que c'est juste que dans la restauration étoilée, il y a beaucoup plus de cette pression. Et donc, déjà, ils sont beaucoup plus en cuisine. Donc, forcément, il y a plus de gens touchés. Mais je pense que c'est partout. Y a des chefs à Paris qui sont connus, qui sont pas étoilés, qui font autant de choses que dans la restauration étoilée. C'est juste, je pense qu'il faut que les cuisiniers soient un peu plus ouverts, plus éduqués et moins sur le vif, quoi.
Ça change quand même, non?
Ça change beaucoup. Enfin, grâce à beaucoup de jeunes chefs qui. Voilà, moi j'ai tous mes potes en cuisine maintenant qui sont quand même assez posés. Moi, quand parfois je vais travailler chez Atsushi, Tanaka, c'est assez carré, c'est posé. Il n'y a pas un mot au-dessus de l'autre. Je sais que maintenant Fleury, voilà, c'est quand même une chef hyper respectueuse et moderne. Et puis voilà, il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que. Il y a toujours cette vieille génération qui fait que c'est difficile de passer à autre chose.
Ouais, surtout dans les, surtout pour les jeunes qui vont se former.
Le problème,
dans
c'est
les
que
établissements.
Quand t'es à Ferrandi, tu rêves pas, tu dis pas, j'ai tellement envie de travailler au Dacha, tu vois. Tu dis, j'ai trop envie d'aller travailler au Place d'Athénée, et au final, t'y vas, t'es dégoûté et t'arrêtes la cuisine. Donc, malheureusement.
Ça va bouger avec le temps.
Ouais, ça va bouger avec le temps. Après, maintenant, il y a des chefs d'étoilés qui aussi, comme Rouen Eder, des chefs hyper posés qui font aussi changer, qui font quand même changer les choses.
Vaste question. C'est quoi ton rêve professionnel?
Le rêve professionnel, j'ai pas encore réussi à vraiment le définir. Après, je pense que c'est tout simplement avoir plusieurs restaurants, parce que j'ai toujours voulu avoir des univers différents dans chaque établissement. Et voilà, que ce soit plein, que les gens soient contents. Après, je pense que mon rêve professionnel se définira au fil des années, mais pour l'instant, c'est assez vaste.
Et la cuisine gastronomique, tu as tiré un trait dessus ou pas du tout ?
Je n'ai pas tiré un trait sur la cuisine gastronomique parce que, je sais pas, enfin pour moi, là je fais une cuisine dite bistronomique, si on veut appeler ça comme ça. Mais je pense que la cuisine gastronomique, c'est juste mettre autant d'émotions que tu mets en bistronomique, mais juste un peu plus poussé, un peu mieux dressé et avec un cadre plus sympa. Je pense qu'on peut avoir autant d'émotions, par exemple, chez Frenchy qu'à la Grenouillère. Je pense que c'est juste qu'il faut mettre les choses en contexte. Et donc, peut-être un jour, j'ouvrirai un resto gastro. Après, pour l'instant, c'est pas dans ma ligne de conduite, mais on verra.
C'est la fin. J'ai pour habitude de demander une recette super simple à faire à la maison. Qu'est-ce que tu nous recommandes ?
En recette super simple, moi, je dirais les asperges carbonara que j'ai fait chez Fulgurance parce que c'est hyper simple, c'est pas très cher et voilà, tout le monde peut le faire, quoi.
Comment tu
fais ? on prend des asperges blanches qu'on blanchit, ça dépend du calibre, mais en une moyenne de 3 minutes dans une eau bouillante salée. Ensuite, on les met de côté, on les coupe en taille un peu de gnocchi en biais. Et en fait, on vient faire une liaison au bain-marie, au jaune d'œuf, beurre noisette, un peu de jus de citron. Ensuite, on vient râper du pecorino sur le dessus, poivre. Et après, on peut garnir avec de l'ail des ours, des herbes telles feuilles de moutarde ou autres. Et voilà, quoi, ça fait une entrée sympa, un peu différente. Quoi.
J'ai goûté, c'est super bon. Merci Alexia.
Merci à toi.
Vous venez d'écouter l'épisode 16 de la saison 2 avec Alexia Duchesne. Encore un peu de patience avant de goûter ce qu'elle a dans la poêle, puisque son restaurant Dacha ouvrira fin août, début septembre. Dans cet épisode, Alexia fait référence à d'autres chefs interviewés dans ce podcast que je vous invite également à écouter. Omar Emoko de Moconuts, Manon Fleury du Mermoz et Greg Marchand du Frenchy. Vous pouvez les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. N'oubliez pas de noter le podcast avec un maximum d'étoiles sur iTunes. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'À Poil.